France Culture.
C'est aujourd'hui qu'une proposition de loi transpartisane attendue visant à lutter contre les déserts médicaux est examinée de nouveau à l'Assemblée nationale. C'est le premier article qui propose d'encadrer l'installation des médecins libéraux dans les zones sous-dotées qui est le plus clivant. Alors l'obligation des médecins à exercer dans les déserts médicaux permettrait-elle de résoudre les inégalités de santé ? La lutte contre les déserts médicaux peut-elle avancer par la remise en cause de ce principe de la liberté d'installation ? Pour en discuter, pour en débattre, même deux invités ce soir. Bastien Bailleul, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes interne de médecine générale, président de l'ISNAR IMG. C'est l'intersyndicale nationale des internes de médecine générale. Face à vous, Catherine Simonin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes membre du bureau de France Asso Santé, présidente de la commission des usagers du centre hospitalier de Montauban. Merci à tous les deux d'être présents ce soir dans Question du soir.
À l'évidence, il faut changer de braquet. Ce que nous proposons, c'est d'encadrer cette liberté d'installation, comme ça existe pour d'autres professionnels de santé, hein, les pharmaciens, les infirmiers, les infirmières, les kinés, qui aussi obéissent à des règles pour leur installation. Donc nous souhaitons inventer avec les médecins de nouvelles règles, de telle sorte qu'on répartisse mieux nos médecins à l'échelle nationale.
Si c'est prendre des mesures qui vont complètement dégoûter toute notre jeunesse de s'installer et de faire des études en médecine, qu'ils partent à l'étranger, qu'ils se mettent en secteur 3, c'est-à-dire que si demain tout le monde se déplaque et en fait n'est plus conventionné par la CNAM, eh bien on met une médecine pas à deux vitesses mais à trois vitesses.
Les voix successives de Guillaume Garot, l'homme qui porte cette proposition de loi examinée aujourd'hui à l'Assemblée nationale, il est député de Mayenne, et ensuite la voix de Yannick Nevers, le ministre de la Santé. On va parler évidemment de ce texte, de sa substance. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur le diagnostic et sur l'ampleur des mesures qu'il s'agit de prendre aujourd'hui. Quand on parle de déserts médicaux, on a l'impression d'une vieille rengaine. Ça fait des années, voire des décennies, que l'on parle de leur creusement, des inégalités de santé qui sont de plus en plus importante. Catherine Simonin, est-ce qu'il faut désormais prendre en la matière des mesures radicales ? On verra lesquelles ensuite.
Alors, les constats sont effarants. Là, on était à 11% de personnes sans médecin généraliste. Les derniers chiffres, c'est plutôt 11,6% au niveau national. Et dans certains territoires comme le mien, c'est 17%. Donc, les personnes qui n'ont pas de médecin généraliste aujourd'hui, elles ne peuvent pas rentrer dans un parcours de soins. Elles sont doublement, c'est la double peine. Premièrement, elles peuvent rentrer dans le système de santé qu'en urgence. Autrement, elles sont moins bien remboursées. Et ensuite, c'est les urgences quand elles sont ouvertes, parce qu'elles sont souvent régulées, ou alors des rendez-vous non programmés. Et aucun médecin ne veut prendre ses patients. Qu'est-ce qu'ils font ? Alors le constat est effarant parce qu'il y a des retards diagnostiques de cancer, par exemple. Il y a des gens qui ne font pas leur dépistage. Et on a besoin de médecins généralistes et équitablement répartis sur le territoire. Mais surtout, ils pilotent le parcours de soins. Alors peut-être libérer aussi du temps médical. C'est des pistes qu'il faudra creuser dans notre discussion.
Mais tout cela, ce sont des pistes que l'on évoque depuis un moment. Là encore, vous dressez un constat que l'on fait depuis des années. On a le sentiment quand même qu'on arrive peut-être au bout d'un parcours, au bout de certaines tentatives. Est-ce que là encore, il faut peut-être, c'est peut-être le mot qu'il ne faut pas employer, mais est-ce qu'il faut des mesures radicales ou en tout cas changer de paradigme quant à la lutte contre les déserts médicaux ?
Alors absolument, je pense que on a essayé beaucoup de choses, mais aussi il y a plusieurs contextes, des éléments de contexte à avoir. Par exemple, bon, le numerus clausus a été levé en 2017. Il faut 10 ans pour former un médecin. Donc automatiquement, c'est reporté 10 années après, donc 2027. Il va y avoir ces médecins généralistes en plus. Ceci étant dit, il y a eu la Covid qui est passée par là. Et là, on a un jeune médecin, je suis ravie d'échanger avec lui, parce que justement, leur manière d'exercer n'est pas du tout la même qu'un médecin de famille de ceux qui vont partir à la retraite aujourd'hui. Ils font 75 heures par semaine. Mais qui peut aujourd'hui envisager cette vie-là ? Alors la Covid a vraiment exacerbé des façons de vivre qui n'étaient pas adaptées et le souhait de privilégier sa qualité de vie, sa vie de famille et ne pas forcément travailler 5 jours sur 5, voire même le week-end.
Alors ce jeune médecin justement qui est face à vous, Bastien Bailleul, est-ce que vous partagez ce diagnostic d'abord et avant tout ? Et ensuite, est-ce qu'il faut des mesures drastiques pour y faire face ?
Alors au niveau du diagnostic, effectivement, depuis tout à l'heure, on parle de répartition, On a parlé des autres professions de santé, les pharmaciens, les kinés, les infirmiers, qui eux sont déjà régulés, c'est-à-dire qu'on limite leur installation sur le territoire.
On n'a pas parlé que de répartition, on a parlé de numerus clausus.
Et on va en parler aussi. Mais en fait, quand on regarde ces autres professions et qu'on les compare avec la répartition des médecins généralistes aujourd'hui en France, l'adresse nous montre ces cartes-là, qui montrent qu'aujourd'hui, sans contrainte, les médecins généralistes sont mieux répartis que toutes les autres professions de santé. Sans contrainte. Maintenant, comment est-ce qu'on en est arrivé là, à ce ressenti qui est réel des patients qui nous disent « mais je n'arrive plus à accéder à un système de soins ». En fait, on a parlé du numerus clausus, il date des années 70, ça fait 50 ans qu'on a instauré ce numerus clausus, on était au courant, on a réduit intentionnellement le nombre de médecins. Dans le même temps, la médecine a évolué, a permis de soigner de plus en plus de gens, donc on a une patientèle qui a pu être soignée, donc grandir, vieillir plus longtemps, porter plus de pathologies et ainsi nécessiter plus de soins. On a une baisse du nombre de médecins et une augmentation du nombre de demandes de soins. Donc on est en parfaite inadéquation avec ce qu'il faut faire. Et on en arrive à aujourd'hui, en 2025, avec 87% du territoire qui est sous-doté en médecins. Et à une répartition quand même qui montre que 98% des Françaises et des Français sont à moins de 10 minutes d'un médecin généraliste. Mais n'y ont pas accès. La question aujourd'hui, c'est la pénurie du nombre de médecins. Et donc il va falloir former plus, former mieux, accompagner les jeunes médecins à l'installation. Et surtout, réduire aussi le temps médical inutile aujourd'hui.
On voit bien donc le paradigme que vous proposez. Le problème, selon vous, ce ne serait pas la répartition, ce serait la quantité de médecins. Est-ce que, en la matière, la remise en cause du numerus clausus, qui est à l'œuvre depuis 2021, mais il faut du temps, on l'a bien compris, pour que les médecins qui entrent aujourd'hui en études puissent sortir et donc puissent exercer, est-ce que la remise en cause de ce numerus clausus pourrait transformer la donne ?
Mais évidemment, la suppression du numerus clausus, sa transformation, on va dire, en numerus apertus, est un premier pas pour permettre la formation de plus de médecins. Aujourd'hui, au niveau des facultés, on a changé le paradigme. On n'est plus sur « on limite le nombre de médecins en première année » et qui vont pouvoir passer en deuxième année. On est sur « on va accueillir le maximum d'étudiants possible en deuxième année dans les capacités de nos facultés ».
Non pas le maximum d'étudiants, je me permets de vous corriger, mais c'est-à-dire les étudiants qui sont en capacité d'atteindre le niveau requis et prérequis.
C'est ça, on va accueillir le maximum d'étudiants qui auront satisfait aux exigences. Voilà, mais un concours n'est pas un test de connaissances pures.
Ce ne sera plus un concours, ce sera un examen.
Maintenant, on est plus sur cette dynamique-là. Mais en fait, depuis 50 ans, les facs n'ont pas grandi. Donc on est capable d'aujourd'hui de former autant que dans les années 70, avec 15 millions de Français en plus, et de Françaises en plus. La question aujourd'hui, c'est d'ouvrir de nouvelles voies de formation. On porte, avec plein d'autres syndicats et de jeunes, l'ouverture de ce qu'on appelle les antennes universitaires. L'antenne universitaire, c'est créer une faculté là où il n'y avait pas de faculté. Ce qui nous permet d'ouvrir des voies de formation dans des territoires qui ne disposent pas de grandes facultés aujourd'hui, de diversifier le profil des étudiants qui vont avoir accès aux études de médecine, et surtout d'augmenter numériquement le nombre de médecins aujourd'hui conformes.
Catherine Simonin, est-ce que vous êtes d'accord avec cette approche ? Est-ce que cela suffirait, entre guillemets, d'augmenter le nombre de médecins ?
Bien sûr, il faut entre 2 et 3 médecins pour en remplacer un qui part à la retraite. Donc, en fait, on est en train
d'avoir... Expliquez-nous cette proportion. Pourquoi il faut entre 2 et 3 médecins pour en remplacer un ?
Parce que c'est des temps partiels, parce qu'ils ne veulent pas travailler à temps plein. C'est une féminisation de la profession. Les femmes s'occupent plus de leur famille. C'est une qualité de vie. C'est avoir son conjoint non loin, c'est-à-dire ne pas faire des kilomètres pour aller travailler. En principe, il y a une étude...
Mais les jeunes travaillent 2-3 fois moins que leurs aînés ?
Ah oui. Mais oui, il faut 2,3 exactement médecins pour en remplacer un. Entre 2 et 3, je dis, mais c'est 2,3. Pour être plus compréhensible, donc le nombre exact, c'est celui-là. Donc, quelqu'un qui part à la retraite aujourd'hui, il faut 2,3 médecins pour le remplacer. Monsieur a raison, il faut former davantage. Mais seulement former davantage, c'est aussi d'autres moyens. C'est-à-dire, il y a eu quand même des mesures qui ont été prises. On ne part pas de rien. Il y a eu de la libération du temps médical avec les assistants médicaux qui font toute la charge administrative, voire plus. Et aussi, la médecine de ville, en fait, on est le pays en France où autour d'un patient atteint de maladie chronique, il y a le plus de médecins. Alors que dans le nord de l'Europe, en Allemagne, il y a des paramédicaux. Quand vous allez à l'hôpital, il faut regarder ce modèle aussi, qui pourrait s'appliquer à la médecine de ville. Ce n'est pas le médecin qui prend l'attention. C'est souvent l'aide-soignant aujourd'hui, parce que l'infirmière, elle est overbookée encore dans le service aujourd'hui, dans les hôpitaux. Donc, il faut bien se rendre compte que prendre l'attention, les constantes, le poids, ça peut être fait par quelqu'un d'autre qu'un médecin. Renouveler une ordonnance qui est toujours la même, alors que le traitement, on sait qu'il est à vie sur des dispositifs médicaux, par exemple. Pourquoi devoir aller voir son médecin régulièrement ?
Ça, ce que vous décrivez, Catherine Simonin, ça s'appelle la délégation de tâches en termes sanitaires. Et pourtant, faire en sorte que ce soit une infirmière, par exemple, qui vaccine plutôt qu'un médecin généraliste pour certains vaccins, beaucoup de médecins s'y opposent justement à cette délégation de tâches. Alors pourquoi ?
Alors nous, au niveau des jeunes générations, on est très enclin à vouloir travailler avec les autres professionnels et à bien mieux répartir finalement les tâches en médecine et puis sur les gestes paramédicaux. L'important quand même, c'est de garder une bonne coordination du soin. Il n'y a rien de pire quand on parle de vaccination, en fait, d'avoir un patient qui a été vacciné une fois mais il ne sait plus de quoi, et puis en fait il revient voir son médecin en disant « Ah, et au fait, est-ce que j'ai été vacciné ?» Le médecin n'a pas l'information, donc est-ce qu'on refait un vaccin ? Est-ce qu'on le réoriente ?
Il faut un carnet de santé en somme.
Il nous faudrait voilà un suivi clair et net de qui fait quoi et comment le faire. Ces questions-là, elles doivent se créer sur des organisations locales. Un médecin, avec autour de lui toute son équipe, je dis son équipe, mais autour de l'équipe médicale et paramédicale, doivent pouvoir définir entre eux quelles sont leurs tâches et comment ils s'organisent. Cette organisation, elle ne peut pas être cadrée et normalisée en fait, au national. Il faut que chaque médecin et chaque équipe puissent s'organiser de la manière dont ils fonctionnent.
Mais donc vous seriez d'accord, Bastien Bailleul, pour que des infirmiers, des infirmières surtout, prennent en charge la vaccination ?
Dans des cadres définis, bien sûr.
Je reviens avec vous un instant sur cette question précise du numerus clausus. Est-ce qu'elle est à ce point effective, cette remise en cause ? On sait très bien qu'il y a beaucoup d'universités qui sont pas capables d'absorber, par exemple, en substance, le nombre supplémentaire d'étudiants aujourd'hui. Donc, est-ce que dans 10 ans, dans une dizaine d'années, plus exactement, on aura plus de médecins, effectivement, sur le territoire national ?
Alors, depuis la remise en cause du numerus clausus, effectivement, le nombre d'étudiants en formation a augmenté. Mais après, comme je vous le disais...
À quel point ?
J'aurais pas les chiffres là. Peut-être, on arrive bientôt sur des promotions à 12 000, 13 000 étudiants, quand il y a une vingtaine d'années, on était autour de 6 000, 7 000. En 93, pour vous dire, le point le plus bas du numerus clausus, on accueillait 3 500 étudiants en deuxième année. Là, on est sur des promotions bientôt de 15 000.
Donc presque deux fois plus.
Donc, mais même plus que deux fois plus... On est sur des chiffres beaucoup plus grands, mais en fait, depuis 50 ans, les amphithéâtres dans les facultés n'ont pas augmenté de taille, donc on ne peut pas accueillir plus d'étudiants qu'il n'y a de place dans les amphithéâtres. Mmh. On n'a pas renforcé les moyens sur le fait d'accueillir et de former plus de professeurs et d'enseignants, que ce soit en médecine générale ou dans toutes les autres spécialités, pour former nos étudiants. Tout ça, c'est du retard qu'on n'a pas fait, et donc on prend encore du retard sur la formation des jeunes étudiants. D'où l'ouverture des nouvelles facs dans les antennes universitaires pour augmenter la taille des locaux et délocaliser nos formations.
Alors entrons de plein pied dans ce débat. Je voudrais vous faire entendre le maire de La Ferrière aux Étangs. C'est une commune qui se situe dans le département de l'Orne, et ce maire, il s'appelle Vincent Beaumont. Il parle de la liberté d'installation et des médecins qui sont arrivés et qui ont quitté sa commune.
Je suis arrivé donc en 93 pour prendre la direction de l'EHPAD, et en 93 dans la commune il y avait un dentiste à temps partiel et deux médecins à temps plein. Quelques années après, l'un des deux médecins est parti et le médecin traitant qui restait est resté une vingtaine d'années jusqu'à sa retraite. Il a cessé son activité au mois de juillet 2020. Depuis, on a eu la chance, au mois de septembre de la même année, d'avoir un médecin espagnol qui avait rejoint l'Orne pour ouvrir un cabinet principal dans une zone de ZRR, dont bénéficions d'avantages fiscaux et sociaux intéressants, jusqu'au mois de décembre dernier, puisque à la fin des aides de ZRR, il est reparti, on n'a plus personne. Tant qu'il n'y aura pas une régulation des installations, eh bien les gens continueront à aller plus du côté du littoral méditerranéen que dans la diagonale du vide.
Ce que dit Vincent Beaumont, le maire de La Ferrière aux Étangs, résonne justement avec la proposition de loi qui est examinée aujourd'hui, je le rappelle, à l'Assemblée nationale, puisque cette proposition transpartisane, portée par plus de 250 députés, propose justement d'encadrer l'installation des médecins libéraux en obligeant certains d'entre eux à faire des gardes. Catherine Simonin, est-ce que vous êtes d'accord, vous, avec cette approche déjà et avec la remise en cause partielle, on le comprendra, de cette liberté d'installation ?
C'est très partiel, c'est juste ne pas s'installer où il y a une dotation suffisante pour subvenir aux besoins et ne pas créer de perte de chance pour les patients. C'est tout. Donc, si on regarde la carte de France aujourd'hui, les trois quarts de la France sont en désert médical. Alors après, les aides à l'installation et les incitations, ben oui, ça fait aussi des mercenaires qui vont chercher une aide, puis 3 ans après, une autre. Alors d'ailleurs, il y a une réglementation qui est sortie. Maintenant, c'est tous les 10 ans. Donc au moins, un médecin, on aura peut-être l'assurance qu'il reste 10 ans au même endroit, une fois qu'il aura perçu les aides des collectivités territoriales, de l'assurance maladie, et après, ben voilà. Et puis, certains aussi ne veulent pas s'installer. Pourquoi ? Parce qu'un jeune médecin qui sort de la faculté, il n'est pas formé à gérer une entreprise. Clairement, il n'est pas vraiment formé à ça. Donc, il y a quand même la crainte de tout ce qui est administratif, les règles fiscales et sociales. Employer du personnel, ça ne s'improvise pas. Je pense que dans la formation, il y aurait un petit bloc qui manque, comment gérer une entreprise quand on est médecin.
Si je le redis avec mes mots, en somme, ce serait désormais l'Agence régionale de santé qui délivrerait aux médecins la possibilité ou non de s'installer dans des territoires lorsqu'il y aurait un désert médical ou lorsque la zone serait sous-dotée en médecins. Il reviendrait donc aux médecins de s'installer. Ce serait une installation de droit, dans le fond. Et lorsqu'il y aurait trop de médecins dans une zone, il faudrait attendre qu'un médecin parte à la retraite pour qu'un autre médecin puisse s'installer. Est-ce que vous, Bastien Bailleul, selon vous, c'est une remise en cause de l'esprit de la liberté d'installation?
Mais complètement. Si on touche à la liberté d'installation d'un médecin, quelle que soit la manière dont on y touche. Donc aujourd'hui, il y a une atteinte directe à la liberté d'installation des médecins, à la liberté du mode d'exercice libéral des médecins. Et en fait, pourquoi cette proposition arrive? Elle vient en réponse à un mythe. Là, il va falloir le dire, il n'y a aucune zone surdotée en médecins en France. Il n'y a aucun Eldorado des médecins. On est en difficulté pour avoir accès aux soins partout en France, qu'on soit à Paris, qu'on soit dans d'autres provinces, qu'on soit dans des campagnes.
On prend toujours l'exemple des littoraux et de la zone entre, j'allais dire, disons la Côte d'Azur, pour prendre cet exemple-là. Là, c'est faux, par exemple, il n'y a pas de surplus de médecins?
Ce qui vient d'être dit, là, notamment qu'on a entendu, effectivement, oui, le médecin va s'installer dans les littoraux. C'est pas le cas aujourd'hui. Les littoraux sont aussi dans des territoires qui sont soit normodotés, soit sous-dotés. Et aujourd'hui, je mets au défi n'importe quel maire d'une commune de venir nous dire « Non, vous inquiétez pas, j'ai suffisamment de médecins dans ma commune, ne venez pas chez moi. »
Catherine Simonin.
Alors, il y a Data Professionnel de Santé, c'est une carte de l'assurance maladie. On peut cliquer sur le département et on peut voir beaucoup de choses. On peut voir la densité, le nombre de médecins. Vous l'avez dit tout à l'heure, un médecin à moins de 30 minutes d'un patient. Oui, mais si le médecin ne reçoit pas de patient, parfois c'est 100 km. C'est vraiment très difficile de se faire soigner. Donc, il y a Data Professionnel de Santé. Dans les déserts médicaux, ce qu'on peut constater, c'est que le dépassement d'honoraires, alors ça touche pas trop les médecins généralistes qui sont en secteur 1, mais les spécialistes. Et plus il y a un désert médical, plus les dépassements d'honoraires augmentent, plus les déconventionnements aussi arrivent, parce que les patients, ils ont besoin d'un médecin. Et sans le médecin, il n'y a pas de pilotage du parcours de soins, il n'y a pas de remboursement, il n'y a pas tout ça. Donc effectivement, c'est laisser de côté une frange de la population qui n'est pas négligeable. Quand on parle de 15% des Français qui n'ont plus de médecin généraliste, je pense quand même qu'il y a deux niveaux, voire trois ou quatre, de la médecine aujourd'hui.
Vous avez raison, Bastien Bailleul, lorsque vous expliquez qu'aucun maire, aucun territoire aujourd'hui ne peut se prévaloir d'avoir trop de médecins. En revanche, ce qui est flagrant pour les patients, pour les Français, c'est sans doute les inégalités de santé. Et il y a bien des territoires où les médecins sont plus nombreux que d'autres. Comment on fait justement face aux inégalités de santé? Est-ce que cette répartition des installations ne peut pas s'organiser par la régulation?
Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'on étudie et comment est-ce qu'on zone tout le territoire français. Aujourd'hui, le zonage, il est fait par les agences régionales de santé, celles dont on parlait, là, qui vont être amenées à devoir discuter ou non de l'installation possible d'un médecin. Ces agences régionales de santé, elles nous montrent déjà que 87% du territoire est en zone sous-dotée, que les 13 autres pourcents sont normodotés, qu'il n'y a du coup pas de territoire surdoté. Et comment est-ce qu'ils définissent ces zones? En fait, on utilise des indicateurs qui ne vont pas simplement prendre en compte le nombre d'habitants et le nombre de médecins. On va prendre en compte les caractéristiques du médecin, les déplacements possibles, son temps de travail, les possibilités. Donc c'est des indicateurs qui sont quand même beaucoup plus proches de la réalité du terrain que juste un simple nombre disant il y a tant de médecins dans cette région et on va limiter.
Je vous donne d'autres indicateurs complémentaires. Sans doute, les 10% de la population les mieux dotés en médecins généralistes ont accès en moyenne à 5,6 consultations par an, tandis que les 10% de la population les moins bien dotés ont accès en moyenne à 1,4 consultations chaque année. Par ailleurs, on rappelle que les principaux déserts médicaux ne se situent pas toujours là où on le croit. Ils ne sont pas toujours au fin fond de la Creuse ou d'un autre département rural. Ils sont aussi et surtout dans les départements de la petite couronne parisienne et notamment en Seine-Saint-Denis, Catherine Simonin.
Oui, absolument. Et l'indicateur, monsieur a raison, c'est pas le nombre de médecins, mais le nombre de temps et d'heures d'équivalent temps plein pour prendre en charge des patients, sortis de tout ce qui est administratif et tâches administratives. C'est comme ça qu'il faut raisonner. Et qu'un patient puisse avoir accès à un médecin. Et s'il ne peut pas avoir accès à un médecin, il faudrait que le médecin pilote une équipe comme coordonnée, hein, et que n'importe quel patient puisse accéder par une IPA, une infirmière de pratique avancée, pour justement voir le cas et grader un peu la gravité de la personne et l'envoyer chez le médecin uniquement si ça relève d'un avis médical. Parce que souvent, il n'y a pas besoin d'un avis médical. Et le médecin pilote les parcours de tout un panel de patients qui est sur son territoire, mmh, avec des IPA, avec des psychologues, avec tout ce qu'il faut. On le voit bien en cancérologie, dès qu'il y a une infirmière de coordination pour piloter un parcours de soins, eh bien, le patient, il a ses rendez-vous qui arrivent tout seul, il a son parcours de soins qui est programmé, et tout va bien. Et ils ont un bon ressenti du parcours de soins. Là, aujourd'hui, pourquoi il y a de la frustration et même jusqu'à la violence de certains usagers? Parce que s'il faut faire Doctolib à chercher des rendez-vous et que ou tout l'annuaire pour appeler tous les médecins du territoire et que personne ne vous prend et que vous êtes en catastrophe, malade et que vous ne trouvez personne et que les urgences sont régulées, eh bien, comment faire? Heureusement, il y a les services d'accès aux soins qui se développent. Et là, il y a aussi des personnes qui sont là pour trouver des rendez-vous en médecine de ville. Et là, il faut que les médecins de ville jouent le jeu. Et c'est pas forcément le cas.
Il y a un argument qu'on entend énormément, qu'on lit beaucoup, Catherine Simonin, au sujet justement de la régulation de cette liberté d'installation. Un argument qui va à l'encontre justement de cette régulation et qui explique que les jeunes médecins risquent d'être dégoûtés dans le fond et refuseraient désormais de se lancer dans la voie de la médecine générale parce qu'ils seraient désormais trop coûteux en mode de vie, financièrement, parce que eux-mêmes veulent choisir l'endroit où ils souhaitent vivre. Est-ce que cet argument, pour vous, tient la route? Quelques montrent, j'allais dire, les exemples étrangers et d'autres professionnels de santé qui se sont eux-mêmes lancés dans la voie de la régulation?
Bien sûr, mais c'est déjà le cas. Les jeunes médecins qui sortent de l'université ne s'installent pas. Ils font des remplacements, mais ils ne veulent pas forcément s'installer tout de suite. Ils ont passé 10 ans à l'université, ils veulent profiter de la vie, ils font des remplacements, mais ils ne s'installent pas. Et c'est bien là le problème. Et après,
est-ce que la régulation va accroître cette tendance-là?
Moi, je ne pense pas. Ceux qui veulent vraiment s'installer, ils vont s'installer. Mais après, peut-être les modes d'exercice actuels ne leur conviennent pas. Il faut réfléchir à d'autres modalités. Je pense qu'une réflexion sur la santé serait vraiment une idée géniale de ceux qui nous gouvernent pour essayer de réfléchir ensemble avec les patients, les médecins, mais essayer de trouver des solutions dans l'efficience, la pertinence, et ne pas accumuler les consultations, en tout cas pour les personnes qui sont atteintes de maladies chroniques, ne pas accumuler les consultations, parce que là on est à l'acte, mais avoir des parcours de soins en fonction de la pathologie, qui soient designés en fonction des besoins des patients, et que tout le monde rentre dans ce parcours, et évidemment sous la responsabilité d'un médecin.
D'un mot quand même pour défendre ceux qui nous gouvernent, j'ai le sentiment que les réflexions au sujet de la santé depuis 20 ans sont quand même extrêmement nombreuses entre les rapports, les assises et le reste. Bastien Bailleul, je pense que vous ne serez pas d'accord.
Mais effectivement, sur cette régulation à l'installation, tout a déjà été fait en fait. On a déjà des études et des exemples à l'étranger, vous en parliez.
Le Québec et l'Allemagne notamment.
Le Québec et l'Allemagne qui ont tenté de mettre en place une régulation à l'installation des médecins pensant régler miraculeusement le problème d'accès aux soins. Ce qu'on a constaté sur ces pays-là, c'est que non seulement ça n'a pas fonctionné, mais qu'en plus, les médecins sont partis vers soit d'autres modes d'exercice, soit ont quitté le pays, soit n'ont jamais exercé la médecine, notamment générale.
D'autres modes d'exercice, c'est-à-dire notamment l'exercice salarié.
C'est-à-dire notamment l'exercice salarié, puis après aller dans des centres de soins non programmés, en fait faire tout sauf de la médecine traitante, comme on dit, la médecine générale, en cabinet. La crainte aujourd'hui, c'est qu'appliquer la même chose en France, sur le même principe de ce qui s'est passé à l'étranger, que non seulement ça ne règle en aucun cas le problème d'accès aux soins en France, mais qu'en plus de ça, on dégoûte les médecins de l'exercice de la médecine générale, qu'ils aillent exercer dans des centres de santé, qu'ils aillent exercer en salariat, qu'ils aillent exercer à l'hôpital qui leur tend les bras, ou carrément qu'ils aillent exercer ailleurs, là où on saura leur tendre la main.
Qu'est-ce que vous proposez par conséquent, Bastien Bailleul? Parce que j'ai le sentiment que vous êtes d'accord, absolument d'accord sur le diagnostic, sur la gravité même de la situation. Quand on regarde ce qui est fait depuis, j'allais dire, le mi-temps des années 2000, ce sont exclusivement des mesures incitatives, un ensemble de mesures qui tentent d'accompagner les médecins dans leur installation dans certains territoires zonés, ciblés. Comment est-ce que l'on transforme ça? Est-ce que pour vous, il faut changer de logique?
Exactement. Nous, les jeunes en tout cas qui sont concernés par la proposition de loi actuelle. On a pris nos responsabilités. On n'est pas juste en opposition à dire on n'est pas d'accord. Mmh. On apporte aujourd'hui.
Vous avez formulé des propositions.
On a formulé une proposition de loi déjà toute écrite et toute prête à emploi pour améliorer l'accès aux soins en France. Elle s'ouvre en 4 chapitres. En premier temps, c'est libérer du temps médical. Il est insupportable d'avoir des patients qui viennent, qui commencent par nous dire qu'ils sont désolés de venir aujourd'hui, mais ils ont un rhume. Ils ne peuvent pas aller travailler dans leur bureau en contact avec d'autres personnes et viennent nous demander un arrêt de travail de très courte durée. Pendant le Covid, on a pu se permettre de dire aux gens, vous pouvez auto-déclarer vos arrêts de travail. Faisons-le, permettant aux patients d'auto-déclarer eux-mêmes les arrêts de travail de courte durée.
Donc on aurait des arrêts de travail maintenant qui seraient décidés par la première personne concernée, c'est-à-dire
par le patient,
le travailleur
sur
lui-même.
Une attestation sur l'honneur, dans une limite qu'on définirait sur l'année, par exemple 5 jours maximum par an, mais qui permettrait pour un rhume de ne pas consulter son médecin généraliste. Parce que le patient, je vous le dis, la première chose qu'il dit en arrivant dans le cabinet, c'est « Docteur, je suis désolé, j'ai pas le choix, je viens ». Ça, c'est un des axes qu'on ouvre pour libérer du temps médical, réduire le nombre de consultations tous les jours. Ensuite, il y a un accompagnement qui doit se faire avec les jeunes. Et on en parlait, l'ouverture des antennes universitaires dont je vous parlais tout à l'heure. L'ouverture des terrains de stage en ambulatoire, c'est-à-dire dans les territoires, pour permettre aux jeunes, et pas seulement en médecine générale, de découvrir l'exercice libéral dès leur formation, que ce soit dès les premières années jusqu'au bout, pour permettre de former plus. L'accompagnement à l'installation. Pour tout ça, il existe déjà en fait ce qu'on appelle les guichets uniques territoriaux. Ces guichets uniques, c'est un interlocuteur spécialiste du terrain qui va permettre de mettre en adéquation le médecin, ses attentes, son type d'exercice, sa famille, ses enfants, avec le territoire et là où il va pouvoir l'exercer. En disant, mais vous inquiétez pas, pour la crèche, on s'occupe de ça. Les démarches administratives vous font peur, vous inquiétez pas, on va vous aider, on va vous accompagner. Ça existe déjà, il va falloir continuer à le développer. Aujourd'hui, là, il y a 3 semaines, j'étais à l'Assemblée Générale des maires ruraux de France. Et on a parlé de cette question-là des guichets uniques territoriaux. Je leur ai dit, est-ce que vous connaissez ces dispositifs qui sont là pour accompagner les médecins dans leur installation? Il y en a moins de 10% qui m'ont dit connaître. Alors que pourtant, c'est un levier essentiel.
Catherine Simonin, on reste donc là dans le paradigme de l'incitation. On accélère tout de même la dynamique, hein, si je vous suis bien, Bastien Bailleul. Mais est-ce que cela permettrait, vous, de résoudre les choses, les problèmes que vous rencontrez dans votre territoire à Montauban?
Ben écoutez, là, c'est un cercle vicieux qui s'est installé, c'est-à-dire il y a moins de médecins de ville, médecins généralistes. Mmh. Donc, ceux qui restent au travail reçoivent des patients qui sont en recherche de médecins, qui demandent justement, ils sont demandeurs d'arrêt de travail ou autres. Donc prestations, et ça devient vraiment une prestation. Donc là, ces médecins ne veulent plus continuer à absorber ce que les autres ont laissé et arrêtent de travailler. Donc c'est pas les nouveaux installés qui ne vont pas s'installer, c'est ceux qui sont installés aujourd'hui qui ont entre 40 et 50 ans qui commencent à dire moi je vais pas continuer comme ça. Et après ça se reporte sur l'hôpital. L'hôpital, les urgences sont régulées et donc automatiquement ils appellent le 15, le service d'accès aux soins, et si les médecins du territoire ne donnent pas leur rendez-vous pour donner des rendez-vous non programmés, le service d'accès aux soins ne fonctionne pas. Donc il faut absolument que la médecine de ville décloisonne la ville, l'hôpital, des exercices coordonnés avec des paramédicaux qui prennent en charge ce qui ne doit pas être un temps médical, l'assistante médicale qui fait les constantes, comme à l'hôpital c'est l'aide-soignante qui prend les constantes aux patients, c'est pas le médecin. Donc voilà, essayez de calquer le modèle hôpital sur la ville et ensuite décloisonner la ville et l'hôpital.
Mais je vous fais réagir plutôt, encore une fois, ce que vient de dire Bastien Bailleul. Est-ce que cet ensemble de propositions, ces 4 axes qu'il développait là, est-ce qu'il suffit, selon vous, à résoudre le problème auquel on fait face, à résoudre le problème des déserts médicaux et dans le temps long?
Alors, ils existent déjà. C'est le problème du manque de médecins flagrant. Alors, effectivement, la régulation, c'est quelque chose de coercitif, mais encore que je ne pense pas qu'il y ait un territoire qui est en pléthore de médecins aujourd'hui. Donc, je pense que l'interdiction de s'installer n'est pas remise en question. Mais c'est rendre l'accès plus équitable sur des zones qui sont vraiment sous-dotées et en grande difficulté.
Je voudrais vous faire entendre la voix de Martial Jardel. C'est un jeune médecin de campagne installé dans la Haute-Vienne. Il était interrogé par notre consoeur Mathilde Serrel sur France Inter.
Le médecin généraliste est un acteur majeur dans la cohésion sociale du village. C'est le bureau des pleurs, des souffrances. Et on voit que dans les villages où il n'y a plus de médecin généraliste, il y a une espèce de catastrophe qui paralyse et tétanise la commune.
Et donc, vous demandez une semaine par an au médecin pour se relayer dans un centre médical.
Exactement, c'est-à-dire au lieu de demander beaucoup à peu, on va demander peu à beaucoup. En se disant, mais dans ce problème qu'on n'arrive pas à résoudre depuis 30 ans, il faut qu'on pense par l'innovation organisationnelle. Il faut qu'on se dise collectivement qu'il y a peut-être d'autres manières de délivrer de la médecine générale à la population. On peut pas rester dans cet immobilisme qui est en train de tuer des gens au sens premier du terme.
Qu'est-ce que vous pensez, Bastien Bailleul, de cette idée? Au lieu de demander beaucoup à peu, on va demander peu à beaucoup, c'est-à-dire concrètement demander à des médecins d'aller effectuer une semaine par mois, tous les 6 mois, par an, que sais-je, d'aller faire en gros une mission de service public, on peut l'appeler comme ça aussi, dans certains territoires.
C'est évidemment une hypothèse qu'il faut mettre sur la table, et pourquoi pas en discuter. Moi je mettrais un bémol quand même, c'est l'exercice même de la médecine générale et finalement de la médecine traitante. C'est le suivi du patient. Avoir un médecin qui se relaie toutes les semaines dans un centre et un patient qui ne verra jamais le même médecin, on ne crée pas de lien de confiance, on ne crée pas de relations sur le long terme et on ne crée pas finalement la médecine générale. Donc on peut entendre ces propositions-là, il faut les garder en tête et il faut essayer d'imaginer un système qui permette de faire fonctionner toutes ces propositions-là ensemble. Quand on voit, je pense que depuis tout à l'heure, on est d'accord ensemble sur toutes les propositions qu'on vient de mettre à la place, à l'exception près que la régulation à l'installation, je vous ai montré par les études en fait à l'étranger que ça ne fonctionne pas et que ça risque d'être dangereux. Appliquons tout le reste, portons ensemble les usagers, les médecins et les syndicats de jeunes, toutes ces idées qu'on partage sur le partage des tâches, sur l'organisation du temps médical, sur la formation des jeunes, sur la libération de temps, pour permettre un accès aux soins meilleur en France.
Je vais faire réagir Catherine Simonin, mais avant ça, je reviens juste un instant, Bastien Bailleul, sur ce que vous disiez. Effectivement, c'est toujours mieux d'être suivi dans le temps moyen, dans le temps long, par un généraliste, mais quand il n'y a pas de généraliste, c'est quand même mieux de voir un médecin une fois tous les 6 mois, une fois tous les ans, même si ce n'est pas le même, non ?
C'est la raison pour laquelle je vous dis que, évidemment, cette proposition, elle est entendable et qu'il faut la discuter et voir comment on peut l'appliquer. L'idéal étant quand même de former les jeunes à s'installer sur les territoires qu'ils connaîtront. Et donc, pourquoi pas, sur ces territoires-là qui sont désignés comme les plus en manque de médecins, inciter les jeunes, recruter les jeunes qui viennent de ces territoires-là, qui auront tendance à s'y installer plus tard, leur permettre de suivre leur formation dans cette région-là, et puis naturellement les regarder s'installer dans les territoires les plus sous-dotés. C'est des choses qui ont déjà été faites dans d'autres pays, notamment, on parlait du Québec, mais en fait au Canada. Ils ont développé ce système en fait d'antennes universitaires, ils ont été formés des jeunes dans les territoires les plus sous-dotés, ils les ont accompagnés dans toute leur formation médicale. Ces jeunes se sont installés derrière dans ces territoires-là et ils ont amélioré l'accès aux soins par 2,5, par 3 sur ces zones les plus en manque.
Catherine Simonin, et en résonance d'ailleurs avec ce que vient de dire justement, je crois, Bastien Bailleul, beaucoup de choses se font dans les territoires à l'initiative des médecins, de l'ensemble d'ailleurs des professionnels de santé pour tenter de résoudre concrètement le sujet des déserts médicaux. Est-ce qu'il faut aussi la compter sur ces innovations locales, sur ce qui se fait au plus près des territoires ?
Bien sûr, il y a aussi les élus territoriaux, c'est important. Tous les élus peuvent participer à essayer de mettre tout en œuvre pour que les médecins accueillis soient dans de bonnes conditions et puissent exercer dans de très bonnes conditions. Je pense qu'un médecin dans chaque village, c'est un modèle que nous ne reverrons sûrement plus, ou peut-être un jour, mais enfin dans 20 ans peut-être. Je suis assez pessimiste sur ce fait.
On appelle le médecin de famille notamment.
Voilà, le médecin de famille, vraiment isolé tout seul. Je n'y crois plus vraiment. Les jeunes, c'est pas vraiment, enfin vous êtes mieux placé que moi, mais c'est pas vraiment ce que les jeunes souhaitent aujourd'hui, d'après ce que j'entends. Par contre, les gardes avancées dans un territoire sous-doté, c'est quelque chose qui peut décoincer, déverrouiller des personnes âgées qui ne voient plus leur médecin, parce que les médecins, il y a un autre problème, ils ne se déplacent plus. Et les personnes qui sont à domicile, que l'on veut maintenir à domicile, les personnes âgées n'ont plus de médecin. Et là, c'est un vrai problème, parce qu'elles ne peuvent plus rester chez elles. Et ça, c'est déraciner des personnes, les mettre en EHPAD, et c'est la fin de leur vie, hein, pour dire. Hein. Donc, je veux dire par là que, justement, ne pas avoir de médecin, en voir un de temps en temps, même si ce n'est pas toujours le même, c'est mieux que rien.
Un autre article de cette proposition de loi suscite la polémique. Je veux parler du quatrième qui vise à rétablir l'obligation de permanence des soins, autrement dit des gardes pour les médecins de ville, c'est-à-dire permettre que les Français, les patients puissent trouver des soins, des médecins en permanence. Est-ce que vous êtes en faveur de cet article, Bastien Bailleul ?
Mais cet article, aujourd'hui, je vois pas à quoi il répond. Aujourd'hui, on a 96% du territoire qui est couvert par la permanence de soins ambulatoires. Alors oui, on peut s'intéresser aux 4% qui restent, mais quand on a le territoire qui est déjà couvert, si on dit à un médecin, maintenant, vous allez faire des gardes la nuit. Donc s'ils font des gardes la nuit, en plus, ils désorganisent le système, mais la journée, du coup, ils font quoi? On leur demande de travailler jour et nuit, mais là, après une garde, on a un repos qui doit être mis en place pour permettre de se soigner dans de bonnes conditions.
Pour être d'accord,
en fait, je ne vois pas à quoi ça répond.
Ça peut répondre peut-être à l'idée que dans beaucoup de territoires, effectivement, c'est impossible de trouver un médecin la nuit, et s'il arrive quelque chose, on est obligé d'aller aux urgences. Et aux urgences, effectivement, on nous dit que il faut aller plutôt justement en ville, pour reprendre l'expression adéquate, et que dans le fond, à part les urgences, et c'est même les urgences qui assurent aujourd'hui la permanence des soins dans beaucoup de territoires.
Ben dans 96% des territoires, le soir, si on a un problème, on appelle le service d'accès aux soins, via le 15, qui vont nous réguler, en dire soit, ben voilà, il y a un médecin qui est disponible là en permanence des soins, vous allez le consulter, je le préviens et vous allez le voir, ou alors vous allez aux urgences. Ça, c'est le médecin au téléphone qui déterminera l'urgence de la situation.
Catherine Simonin, vous êtes d'accord? Il n'y a pas de problème de permanence
alors,
des soins?
Si, parce que c'est toujours les mêmes médecins qui sont volontaires pour faire prendre la permanence des soins, et ils s'y épuisent. Donc, je pense qu'il y aurait un minimum. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Demander peu à plusieurs personnes, c'est mieux que demander tout aux mêmes personnes qui s'épuisent, qui ne tiennent pas dans le temps. Et on a aussi des retraités qui reprennent aussi fonction. Et on les voit aussi agir au SAS ou au 15 sur la régulation. Et on s'interroge au bout d'un certain temps, est-ce qu'ils vont tenir? Comment ils vont faire? Voilà, c'est aussi des questions dans les territoires sous-dotés. On voit des médecins très très âgés qui reprennent de l'activité, et tant mieux hein, s'ils sont en capacité de le faire. Mais au bout d'un moment, ça va pas tenir longtemps. Donc il faut que les jeunes s'installent, il faut que les jeunes assurent une certaine permanence des soins et s'y intéressent et roulent entre eux. C'est-à-dire c'est pas toujours le même. Et c'est souvent le cas.
Bastien Bayol, une réaction?
J'ai l'impression qu'on cible beaucoup les jeunes en disant que le vieux médecin était formidable et réglait tous les problèmes du monde, mais que les jeunes aujourd'hui, attention, il faut se mettre au travail, quoi. Quand on regarde les chiffres, c'est pas exactement la réalité.
Vous étiez d'accord tout à l'heure avec le chiffre un remplacement pour 2,3
médecins? Moi, quand je regarde concrètement, chiffre à l'appui, un médecin de moins de 50 ans, en moyenne, hors tâche administrative, va passer 44 heures par semaine auprès de ses patients. Un médecin de plus de 50 ans, effectivement, il va travailler un petit peu plus auprès de ses patients, il va passer 47 à 48 heures. Je vois pas comment on cale, il faut 2 à 3 médecins, du coup, plus jeunes pour remplacer un médecin plus âgé. En fait, c'est surtout que la pratique est différente. Les jeunes travaillent beaucoup plus ensemble, en coordination du parcours de soins, font beaucoup plus de prévention pour leurs patients, qui va permettre aujourd'hui de prendre un temps plus long avec le patient, mais plus tard d'éviter des maladies plus graves. C'est la nouvelle organisation du système de santé, et en tout cas, en tant que jeune, c'est celle qu'on prône et qu'on va continuer à soutenir.
Merci à tous les deux de cette discussion, de ce débat. Bastien Bayol, vous êtes interne de médecine générale et président de l'intersyndicale nationale des internes de médecine générale, aussi appelée ISNAR-IMG. Et Catherine Simonin, vous êtes membre du bureau de France Asso Santé, présidente de la commission des usagers du centre hospitalier de Montauban. Merci à tous les deux.
Merci.